Elle est bonne, cette glace au chocolat.
La glace au caramel, c'est délicieux.
Hé, vous savez quoi? Moi, ce que je préfère, c'est la glace à la vanille. Goûtez-moi ça.
Elle est drôlement bonne, cette vanille. Tu l'as trouvée où?
Sur l'île de la Réunion. Ici, on fait de la vraie vanille. Rejoignez-moi.
L'île de la Réunion? Allez, Marcel, on y va. Sabine, tu viens?
Oh non, à la Réunion, il y a trop de soleil. Le soleil, ça fait fondre les glaces.
Alors Fred, qu'on a trouvé?
Regarde Jamie, de la vanille. T'as vu, ça se présente sous la forme de gousse. Tu sais qu'ici, on en produit depuis plus d'un siècle et demi. Actuellement, environ 6 tonnes par an.
Bon bah alors, je t'en prends quelques gousses, c'est juste pour montrer à Marcel.
Ah, te gêne pas surtout. Et la vanille ici a une longue histoire, puisque c'est ici, à La Réunion, qu'on a réussi à la cultiver pour la première fois.
Marcel, regarde ce que je te ramène. Mais avant de se mettre au parfum, un peu de géographie. La Réunion se trouve ici, une île, perdue au milieu de l'océan Indien, c'est-à-dire, on ne peut pas la louper. C'est un gigantesque volcan qui se dresse environ à 800 km à l'est de Madagascar et au sud de l'île Maurice. Ça sent bon.
Ils sont là-bas, tes plans, là?
Oui, à 50 mètres devant...
Alors ici, à La Réunion, la vanille, on la trouve très souvent dans les sous-bois parce que c'est une plante qui a besoin d'ombre. Alors si vous regardez bien, eh bien c'est une plante extrêmement longue. C'est une sorte de liane qui peut atteindre 15 mètres de long à peu près, François?
15 mètres de long, oui.
Alors il faut une grande perche comme ça pour la décrocher. Elle est bien accrochée à l'arbre. Si on regarde, elle a des petites racines comme ça. C'est vrai qu'elle est très très bien accrochée. Je vais t'aider un peu. Comme ça. Oup. Alors pourquoi tu la décroches?
Alors on la décroche parce que sinon, si on laisse trop monter... Après, c'est plus embêtant de faire descendre, quoi. C'est plus ennuyé. Hein.
D'accord. Parce qu'il faut bien dire qu'il y a une fleur qui va sortir et c'est elle qui nous intéresse. Donc, il vaut mieux éviter que la fleur soit tout en haut de l'arbre.
Voilà, oui.
Ah. Bon, on va essayer de trouver une fleur.
Une fleur, oui, bien sûr. On va essayer de trouver ça.
Oh, venez voir. J'en ai trouvé une fleur de vanille. C'est elle qui va donner la gousse.
Et elle fait partie de la famille des orchidées.
Et c'est dans cette famille que l'on trouve quelques-unes des plus belles fleurs du monde végétal. Ces fleurs, d'une étonnante diversité et aux formes parfois étranges, sont pourtant toutes construites sur le même modèle. Elles ont trois sépales, deux pétales et un labell qui ressemble parfois à une véritable piste d'atterrissage pour les insectes pollinisateurs. Dans le cas du sabot de Vénus, par exemple, que l'on peut trouver en France, le labell est en forme de cavité. L'insecte tombe dedans et pour s'en sortir, il est obligé de passer là où se trouve le pollen. Ingénieux, non ? Les orchidées, c'est également une des plus grandes familles de plantes à fleurs. Il en existe pas moins de 20 000 espèces que l'on trouve principalement dans les régions tropicales. Mais seule la vanille est utilisée de façon agricole et industrielle. À La Réunion, on la cultive surtout en sous-bois, mais on la trouve aussi au beau milieu des champs de canne, enroulée autour des bois de chandelle. Et pour obtenir un meilleur rendement, on a mis au point des ombrières. Là, les pieds de vanille poussent sur des tuteurs artificiels sous une toile qui laisse passer la pluie mais protège du soleil.
Des gousses, une liane, je vais envoyer ça à Sabine, ça va lui faire plaisir.
Mais tu sais, Jamy, même si c'est à La Réunion qu'on a commencé à cultiver la vanille, la plante n'est pas originaire d'ici, elle vient de beaucoup plus loin.
Absolument, elle vient du Mexique. Ce sont les Aztèques qui l'ont fait découvrir aux conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. Autrement dit, pendant très longtemps, une grande partie de la planète a ignoré le goût et l'arôme de la vanille. Séduit ? Les conquérants espagnols l'ont ensuite ramené chez eux. Et là, autant dire que la vanille a fait un tabac.
Très drôle.
Merci. Toutes les cours européennes se mirent à en consommer. Mieux, tous les botanistes de l'époque se mirent en tête d'en cultiver. Malheureusement, la vanille qui produisait de si belles gousses dans le Nouveau Monde se contentait en Europe de fleurir sans jamais donner un fruit. Puis, les années passèrent, les siècles même, et aux alentours de 1820, la vanille débarque à la Réunion, colonie française. Au départ, uniquement pour faire joli. Jusqu'à ce jour de 1841, où des gousses se forment sur une liane de vanille. Le mystère de cette orchidée était enfin percé. À partir de là, la culture de la vanille s'est répandue dans tout l'océan Indien. À Madagascar, qui depuis est devenu le premier producteur mondial de vanille. Aux Comores, on cultive la vanille également en Indonésie, deuxième producteur mondial. On en trouve à Tahiti, aux Antilles, à la Martinique et en Guadeloupe, et bizarrement, un tout petit peu au Mexique.
Et pourtant, bien avant la découverte du Nouveau Monde, les Aztèques consommaient la vanille en abondance. Ils l'appelaient Tlixotchitl, ce qui signifie gousse noire. Le plus souvent, la vanille était mélangée à du cacao, du poivre et du piment. Pouah ! Grâce à elle, on obtenait une boisson rituelle un tout petit peu moins amère, mais enfin, je suis pas sûre que ça soit super bon tout ça. La légende raconte que Cortés, le conquérant du Mexique, but avec son rival l'empereur Moctezuma cette boisson servie dans des gobelets d'or. Puis les Espagnols ont rebaptisé les belles gousses noires mexicaines vanilla ou petite enveloppe. La vanille arrive en Europe et séduit tout de suite les cours royales. Nobles et aristocrates s'empressent d'en parfumer leur café et même leur chocolat. Il faut dire qu'on prête à Dame Vanille des vertus plutôt aphrodisiaques.
En arrivant sur l'île de la Réunion, la vanille donne des fleurs sans jamais donner de fruits. Impossible d'avoir des gousses. Et pourtant, toutes les conditions climatiques étaient réunies. Il faisait au moins aussi chaud qu'au Mexique. En plus de ça, il y avait un fort taux d'humidité.
C'est rien, hein ? C'était juste un colis pour Sabine.
Je disais donc chaleur, humidité. En plus de ça, la vanille est une plante hermaphrodite. Ça veut dire que sur la même fleur, il y a les organes mâles et les organes femelles. Donc on aurait dû avoir des gousses. Et pourtant, ça ne marchait pas. Mais Jamy va nous expliquer pourquoi. Jamy, quand on a besoin de lui, il n'est jamais là.
Mais si, je suis là, dans le camion. Et j'explique. Alors, regardons ce qui se passe à l'intérieur de la fleur, sous cet énorme pétale qu'on appelle le labelle. Ici, les étamines, l'organe mâle qui contient le pollen. Là, le pistil, l'organe femelle qui débouche sur un réservoir d'ovules. Entre les deux, un voile, le rostellum qui fait barrage. Autrement dit, vous l'avez compris, sans intervention extérieure pour franchir cet obstacle, les organes mâles et femelles ne peuvent pas entrer en contact, la fleur ne peut pas produire de fruits.
D'accord, Jamy, mais je te rappelle qu'au Mexique, la fleur de vanille, elle donne des gousses. Alors ?
Alors ? Eh bien, au Mexique, c'est une petite abeille, la mélipone, qui joue les entremetteuses. Elle se glisse dans la fleur à la recherche de nectar pour faire du miel. En se faufilant dans les trois passages, elle secoue involontairement les étamines. Du pollen se décroche et tombe sur son dos. Puis, toujours en quête de nectar, dont la fleur est d'ailleurs dépourvue, elle vient se frotter contre le pistil poisseux et dépose le pollen. L'obstacle est franchi, la fleur peut désormais produire une gousse. L'ennui, c'est que cette abeille, la mélipone, ne vit qu'au Mexique. Il n'y en a pas à La Réunion.
Tu sais, Jamy, la solution pour cultiver la vanille à La Réunion, c'est un jeune esclave âgé de 12 ans, Edmond Albius, qui va la trouver en 1841. Regardez,
Il suffit, avec une petite aiguille, de lever cette petite languette, le rostellum, pour mettre en contact les organes mâles et les organes femelles. Le tour est joué. C'est d'ailleurs cette technique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Alors l'histoire est un peu controversée. On ne sait pas vraiment si Edmond Albius a fait cette découverte, volontairement ou non. Certains prétendent même qu'il l'aurait faite par hasard. Un jour, il était très fâché contre son maître. Il aurait écrasé des fleurs entre ses doigts. Ça, on ne le sait pas vraiment. Toujours est-il que c'est grâce à lui si aujourd'hui on peut cultiver la vanille partout dans le monde, là où il n'y a pas la petite abeille mexicaine.
Belle histoire. Alors reprenons en détail toutes les opérations qui ont conduit à cette union. Une fois les étamines et le pistil dégagés du label, il faut soulever le voile, le rostellum, puis rabattre l'organe mâle contre l'organe femelle. Les grains de pollen qui se sont déposés, qui contiennent la semence, vont désormais pouvoir germer. Ils développent un long conduit à travers le pistil qui débouche sur l'ovaire, le réservoir d'ovules. Là, chaque grain de pollen libère sa semence qui entre en contact avec les ovules. Et le tour est joué.
Mais ce n'est pas tout. La vanille exige vraiment beaucoup de patience. Les fleurs sont particulièrement éphémères. Elles ne vivent qu'un seul jour. Elles éclosent le plus souvent la nuit et les planteurs doivent faire vite car il faut les polliniser si possible avant midi.
Personnellement, je peux aller jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais la fleur s'est déjà refermée, donc c'est un petit peu plus délicat. Le pollen tombe facilement, il est plus sec, donc il suffit à peine de toucher la fleur pour que le pollen tombe.
Et attention, chaque fleur non pollinisée, c'est une gousse de vanille perdue. Autrefois, ce sont les femmes qui étaient chargées de ce travail si délicat. On les appelait des marieuses, car elles devaient marier les organes mâles et femelles de la fleur. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. La culture de la vanille à La Réunion est devenue familiale. Forcément, elle est peu rentable et exige beaucoup de temps. Pendant la période de floraison de septembre à décembre, il faut travailler tous les jours et polliniser jusqu'à 2000 fleurs en une seule matinée.
Déjà, il faut avoir de l'amour, hein. Si on n'a pas de l'amour, faites de la vanille. Et puis, je suis attaché à ça parce que mon père m'a montré ça depuis tant petit. J'aime bien ça, quoi. J'espère le continuer de toute ma vie.
Une fois que la fleur est fécondée, elle se fane très vite, regardez. Et la gousse commence à se développer. Mais il faut environ un mois pour que la gousse atteigne sa taille adulte et 9 mois pour qu'elle arrive à maturité. C'est au bout de 9 mois seulement qu'on va pouvoir l'accueillir quand elle est un petit peu jaune comme ça. Si on l'accueille trop tôt, elle risque de moisir. Si on l'accueille trop tard, en revanche, elle risque de se fendre en deux. Tiens, pour celle-ci, Jamy, je crois qu'il est déjà trop tard.
C'est vrai, elle est un peu avancée. Alors une gousse, c'est en fait l'ovaire d'une fleur. Une fois pollinisée, chaque ovule se transforme en graine. À l'origine, ces graines sont destinées à assurer la pérennité de l'espèce. Autrement dit, chaque graine qui tombe au sol peut germer et engendrer une nouvelle liane. Alors ces graines sont toutes petites, elles n'ont pas de réserve de nourriture aussi. Elles sont très fragiles. Pour que la vanille ait toutes ses chances, chaque gousse peut donc contenir jusqu'à 1 million de graines. Sur la quantité, c'est bien rare s'il n'y en a pas une qui germe.
Ah bah non, ça c'est pas sûr, car il existe un autre obstacle. Comme les graines de vanille n'ont pas de réserve de nourriture, pour germer, elles ont besoin d'un minuscule champignon. Il permet à la graine de se libérer de son enveloppe particulièrement rigide et lui donne des sucres pour se développer. Mais la méthode la plus simple pour faire pousser de la vanille, c'est quand même de couper un morceau de liane et de le replanter. Ça repart ensuite tout seul. Les premières gousses n'apparaissent ensuite qu'au bout de 3 ans. Elles sont regroupées en grappes ou en balais et récoltées entre les mois de juin et septembre. À ce stade, elles ne sentent pratiquement rien car la préparation de la vanille exige encore plusieurs mois de travail. Il y a 250 familles à La Réunion qui cultivent de la vanille et qui en vivent difficilement. Certaines réalisent elles-mêmes la transformation des gousses, mais la plupart vendent leur production à une coopérative. Les planteurs touchent alors en moyenne 18 euros par kilo de vanille verte, dont près du tiers sous forme de subvention. Une fois à la coopérative, les gousses sont traitées selon un procédé mis au point à La Réunion. C'est l'échaudage.
lorsque les gousses ont été cueillies, très vite, il faut les échauder. C'est-à-dire qu'on les plonge pendant environ 3 minutes dans une eau à 65 degrés. Et ça, ça arrête brutalement la vie végétative des gousses. Ici, on dit qu'on tue la gousse par chaude. Et ensuite, suivez-nous, on va empiler tout cela dans une caisse. On va recouvrir les gousses d'une couverture, ça va durer 24 heures et là, à l'intérieur, elles vont transpirer et perdre énormément de leur eau. Alors à ce stade, Jamy, ça sent pas du tout la vanille et pourtant le processus de fabrication des arômes a déjà commencé. Ah, on va bien les répartir. C'est très chaud et on les recouvre pour conserver la chaleur.
L'arôme que dégage la vanille est constitué d'une multitude de molécules. Cela dit, il y en a une qui domine les autres, la vanilline. Elle représente 90% des molécules aromatiques de la vanille naturelle. Alors cette vanilline est présente dès le départ à l'intérieur des gousses. Attention, pas dans les graines, dans la pulpe, dans la chair de l'enveloppe, à l'intérieur de petites cellules comme celle-ci. Cela dit, tant que le fruit est vert, il ne libère pas d'arôme. En effet, la vanilline, ici, est prisonnière de la cellule. Elle est enchaînée à une autre molécule, le glucose. Seul un enzyme, ici, peut la libérer. L'ennui, vous le voyez vous-même, c'est qu'un mur les sépare. Pour l'abattre, une seule solution, chauffer. Sous l'effet de la chaleur, la paroi est détruite, l'enzyme peut s'approcher de la vanilline, briser ses liens et la libérer.
Et regarde, Jamy, après une nuit de transpiration, les gousses qui étaient vertes ont pris la couleur chocolat et puis elles sont devenues très souples, alors qu'avant, elles étaient cassantes. En revanche, ça sent pas grand-chose, hein? Ah, si, peut-être un peu. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui, il a raison, ça sent pas encore grand-chose. Bon, bouge pas, j'arrive!
Attendez les gars, c'est pas fini! Ensuite, tout est affaire de séchage. Une gousse comporte un taux d'humidité de plus de 80%. Il lui faut l'éliminer. Les gousses sont donc placées au soleil 3 ou 4 heures par jour pendant une semaine. Passé ce délai, elles sèchent à l'ombre un mois environ, dans un endroit aéré. Et pendant tout ce temps, les gousses doivent être soigneusement triées. Chaque gousse passe ainsi plusieurs fois entre les mains des ouvriers. On élimine les fendus et les tordus qui ont beaucoup moins de valeur. Surtout, on met de côté les gousses sèches. Car à la fin de leur petit séjour à l'extérieur puis à l'intérieur, les gousses ont déjà perdu la moitié de leur humidité. Ça commence à sentir bon par ici.
Oh bah c'est Sabine qui va être contente, hein.
Oh, qu'est-ce que tu fais, Jamy?
Bah, j'envoie des gousses à Sabine, tiens.
Bah, ça va pas, elles sont même pas sèches.
Comment tu fais ça?
Bah, c'est très simple. Tu prends une gousse entre tes doigts, si elle roule, c'est qu'elle n'est pas sèche, il y a trop d'eau à l'intérieur. Si elle ne roule pas, si elle colle, c'est qu'elle est sèche.
Ah, oh, bah, je vais prendre celle-ci, alors.
Là, là, là.